genèveactive.ch.
Oscar, le psychodrame est une thérapie que tu as appliquée dans un hôpital, dans une galerie. Aujourd'hui, c'est au Théâtre Saint-Gervais. Est-ce qu'il y a un lien entre le lieu et le scénario que tu imagines ?
Oui, absolument. J'essaie d'appliquer un modèle de pièces que j'ai créé à partir ou inspiré du psychodrame thérapeutique. Ce que je fais, ce n'est pas une thérapie. Et j'essaye de placer ça dans un lieu, c'est-à-dire que j'essaye de voir quelle est la concordance, on va dire, entre un problème, entre guillemets, que je pourrais avoir ou que je pourrais analyser psychodramatiquement et les lieux. Donc j'établis un parallèle entre une problématique personnelle et les lieux. Et donc, de cette problématique, j'essaie de l'étendre, de la partager avec le public, voire avec la ville, parce que là, on est à Genève, et puis de ça, de faire un problème, on va dire, entre guillemets aussi, ou un conflit qu'on analyse ensemble et qu'on essaye de résoudre quelque part.
Alors, dans ce lieu, il est surtout question d'un phénomène qui touche absolument tout le monde, certainement, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol qui donne envie de claquer la porte, étrange au théâtre.
Oui, oui. Bah oui, je crois qu'on vit des temps, on va dire, des colères, malheureusement peut-être, et des crises et des conflits aigus, et puis c'est quelque chose que moi je vis dans ma personne, entre le fait de vouloir être serein et tranquille, et apaisé, et puis une dynamique colérique, ou une dynamique qui ne me laisse pas tranquille. Et puis je me suis rendu compte aussi que Saint-Gervais était un lieu, une maison, qui aspire à, ou qui travaille avec des idéaux comme la révolution, la solidarité, la maison ouverte des artistes, et que finalement, ce que j'ai vécu ici, ces derniers mois, c'était une maison des portes fermées, avec une dynamique contraire à ces idéaux. Et puis je me suis dit, tiens, voilà, le psychodrame de Saint-Gervais devrait aller dans ce sens-là parce que c'est comme ce que je vis aussi. Et puis donc, à partir de là, j'établis un discours, on va dire, plus élargi par rapport à la société qui implique tous les publics. Et donc, on essaye vraiment de... Le but de celui-ci, du 3, c'est de trouver une solution ensemble, de faire à partir de ces conflits, de construire quelque chose ensemble.
Ensemble, le psychodrame, donc, tu l'as dit au début, c'est une thérapie. On pourrait aussi l'appeler un workshop.
C'est un workshop, absolument. Parce que une des premières idées de ces projets, c'était d'essayer d'appliquer dans une salle, on va dire, de théâtre, de spectacle, quelque chose que je fais depuis des années, qui sont des workshops, des ateliers, où il y a vraiment une dynamique très particulière, positive, constructive. Je me disais, comment tu pourrais faire pour rendre ça vraiment dans un lieu où on ne s'attend pas à ça? Et comment pourrais-tu impliquer tous les publics dans cette dynamique de création, on va dire, d'essayer de pas seulement d'être observateur passif, mais actif. Voilà, et dans ça, c'est vraiment un atelier, et dans ça, c'est rendre quelque part le théâtre aux gens.
Alors, il y a une démarche également de thérapeute, puisque habituellement, le metteur en scène est plutôt habitué à faire en sorte que sa mise en scène soit présentée devant le public. Là, il s'agit de faire parler le public et provoquer cette parole. Il faut donc révolter ces personnes, et tu l'as fait en présentant une vidéo d'une manifestation en Espagne.
Oui, je présente des vidéos de manifestations dernières, de ces derniers mois en Espagne, à Madrid, qui ont été réprimées très violemment, où la population est sortie dans la rue pacifiquement, d'une manière non violente, et c'est des images très très violentes que moi m'affectent beaucoup et qui nous concernent, je crois tous, même si on ne vit pas la même crise. Et puis effectivement, le but, c'est de nous confronter à une réalité qui évidemment provoque une tension. Donc de vivre dans cet espace qui est le théâtre, hein, une tension, on va dire, ensemble, commune, quelque part, et puis essayer de la délier et dénouer et délier. Ouais.
Et face à cette situation, il y a deux possibilités, tu le répètes plusieurs fois pendant la scène, c'est action ou inaction. On a le choix.
On a le choix, l'action que je considère nécessaire aujourd'hui et l'inaction qui, comme je dis, est un luxe plaisant, mais qui est aussi nécessaire parfois. On ne peut pas être tout le temps dans l'action, surtout pour essayer de faire comprendre aux gens que l'inaction, on va dire active, on pourrait dire, même si c'est voilà, l'inaction, l'observateur qui observe, mais d'une manière active, est important et il est aussi engagé dans la pièce qui se construit. La seule possibilité dans cet atelier sur l'engagement, en fait, pour ne pas s'engager, ça serait de partir. Mais tant qu'on reste ici et en groupe, on est engagé. C'est pour ça que je fais vraiment, je dis que l'inaction est aussi une partie de cet engagement.
Tu as vu que la plus grande partie des spectateurs participent, ce qui est vraiment intéressant, à la mesure où certains parlent au micro, d'autres écrivent des slogans. En même temps, ils sont créatifs dans la manière dont ils se déguisent. As-tu été surpris par cette participation ?
Disons, c'était un peu le pari de la pièce. Surpris, non, parce que ce que je constate, c'est que quand on laisse de la place aux gens, ils apprennent. Et là, c'est une place créative, donc ils sont contents et surtout, c'est, ils comprennent qu'il y a un sens à faire ça. C'est pour ça que je crois que la plupart du public s'engage vraiment dans l'action. Et puis, il y a des gens qui restent assis et qui sont très contents et qui ont vraiment passé un moment très engagé dans l'inaction, tu vois. Mais pas tellement surpris. Après, c'est vrai que tous les soirs, je constate que, on va dire, les 90% du public s'engage dans l'action, fait des choses et puis donne un sens à sa parole et à l'action et à son plaisir, à sa joie, à son énervement, des fois. Voilà.
Est-ce que c'est également une manière habile de passer de la mise en scène d'un thème à un questionnement sur le théâtre, puisque le spectateur qui est participant à la fin se demande pourquoi il est venu au théâtre, qu'est-ce qu'il en tire et comment il a participé.
C'est quelque part une manière de renouer avec peut-être ce qui est de plus ancien dans le théâtre. C'est un rituel ou une sorte d'assemblée collective où on recrée les mondes et on essaye de jouer symboliquement à ce qui est la vie. Donc c'est pousser peut-être un peu ou essayer de pousser certaines conventions qu'on ne croit pas pouvoir pousser d'observation, de regard dans les théâtres. Ça, c'est important parce qu'effectivement, on vit une période de crise où on ne sait pas par où on doit aller, mais en tout cas, il faudra faire autre chose. Voilà, c'est ce que je... Et donc, cette autre chose, peut-être ça passe par un engagement collectif pour dire il faut vraiment rêver ou aller créer un horizon utopique. Et pour créer cet horizon utopique collectif, évidemment, il faut abandonner un peu de soi-même, de son individualité, et pour créer un truc ensemble, voilà. Et de ça, il s'agit, donc, cette pièce, voilà. Et dans ça, oui, le théâtre, il devient autre chose, ouais, effectivement, qu'un lieu seulement où on donne du spectacle.
Est-ce qu'il y a une différence de réception entre l'hôpital, la galerie, le théâtre ?
Ouais, il y a une différence, oui. Le théâtre, c'est un lieu moins souple qu'une galerie d'art et que l'hôpital psychiatrique, évidemment, où on faisait une partie de notre performance aussi dans un petit théâtre, mais qui, comme c'est un théâtre qu'on n'utilise presque pas, comme ça, c'est... Le théâtre, il est un lieu moins souple, autant physiquement qu'intellectuellement, qu'une galerie d'art ou même que l'hôpital psychiatrique. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça.
Donc la thérapie peut être aussi dirigée vers le théâtre lui-même.
Je crois, ouais, qu'il faudrait que ça sert à soigner un peu le théâtre, hein, ouais, de ces forts réflexes. Ouais.
Pas assez participatif.
Pas assez, surtout beaucoup trop sur la défensive. Hein. Le théâtre devrait être un endroit où on expérimente des choses nouvelles, et puis au lieu d'être un lieu où on se réconforte, hein, même sur des idées révolutionnaires, hein, mais on sort réconforté. Et ça, de se questionner, ça n'enlève en rien le plaisir. Parce que si je trouve que les gens, ils se questionnent, ils s'écrivent beaucoup, tu vois, là, il y a plein d'écriteaux sur les murs, hein, qui ont été écrits par le public et affichés par le public. Hein. Donc, ils se questionnent beaucoup et en même temps, chaque soir, il y a vraiment beaucoup de plaisir, hein, qui se partage.
Ce clin d'œil à Brecht, qui part du voyage que tu as effectué à Berlin, c'était simplement de saluer Brecht pour cette occasion ?
Le saluer, oui, mais c'est très important parce que même si je ne le dis pas dans la pièce, c'est bien que tu me demandes ça, c'est quelque part appliquer un modèle théorique brechtien. Ça, c'est ce que je fais, c'est pas, vraiment pas très loin, et vraiment la redécouverte que j'ai eue un peu de Brecht, donc de relire les écrits sur le théâtre, ça a été de découvrir que Brecht déjà parler d'un observateur impliqué, déjà dans le Lehrstück, parler de cette pièce de théâtre rendu au public, au peuple, aux gens, donc quelque part sur un modèle où le spectateur devient acteur et où le spectacle quelque part disparaît. Donc Brecht, il a été redécouvert, hein, lors de ses voyages à Berlin cet été, mais aussi il a été un très bon compagnon, moi je dirais, de ses projets. Ouais.
Visiter son appartement a enrichi ta perception ?
Ça m'a surpris, mais bon, j'aurais pu le prévoir, mais ce qui m'a surpris, je le dis aussi dans la pièce, c'est que de découvrir qu'il était très influencé par la culture traditionnelle chinoise. On aurait pu le prévoir parce qu'il parle beaucoup dans ses textes, hein, et dans ses pièces, il y a une forte influence des ambiances chinoises. Mais au point que les seules décorations qu'il avait dans son appartement, dans son quotidien, les seules références visuelles étaient liées à la culture orientale traditionnelle, ça m'a surpris parce que c'est vrai que c'est une autre perception de la réalité. Et puis ça, je ne l'imaginais pas comme ça, alors qu'apparemment il l'était vraiment. Il n'était pas si rationnel qu'on peut le penser.
Pour revenir au psychodrame, est-ce qu'après ces trois expériences, tu envisages de poursuivre l'étude de ces rapports avec la participation du public ?
Oui. Chaque psychodrame change le suivant. Je pense que le modèle, il va changer pour le prochain qui se fera à Bilbao ou en Espagne. Donc il prendra deux derniers surtout, et dans le contenu du dernier par rapport à l'idée d'utopie. Mais je veux le placer peut-être, l'aspect, on va dire, psychodramatique, plutôt dans un fait lié directement à moi, mais à la ville et un artiste de la ville, de Bilbao. Donc je vais déplacer un peu le nœud émotionnel, mais tout en travaillant sur, en tout cas, sur un nouveau rapport peut-être au public. Je travaille sur ça depuis des années, et je me pose la question depuis des années de théâtre comme lieu. Alors, j'aime beaucoup le théâtre, mais de comment la relation, quelle est la relation adaptée à une époque, hein. La relation de l'art vivant, qu'est-ce que, voilà, et donc dans ça je continue à me poser des questions. Ça sera différent encore le 4 et la suite aussi.
Qui n'est donc pas obligé de se dérouler dans les murs d'un théâtre.
Non, c'est dans un centre d'art, oui, un théâtre, mais je pense que je veux utiliser plutôt une grande salle d'exposition.
Merci Oscar.
Merci à toi.
Genève Active.ch